Radio Libertaire 89.4 en direct de la salle Olam de Gouges dans le 11e arrondissement, métro Voltaire ou métro Père-Lachaise. Vous accédez par le square, sachant que l'entrée est tout à fait libre et qu'il y a un petit peu de restauration. Sachant que si nous sommes dans la salle Olam de Gouges, c'est parce que c'est le 40e anniversaire de Radio Libertaire. Ça veut dire que pendant 40 ans, des anarchistes ont géré directement une radio tous les jours, 365 jours par an et plusieurs heures par jour. Voilà, on prend un deuxième temps de parole durant cette manifestation qui dure tout le week-end autour des 40 ans. Et puis après, il y aura sans doute des concerts, des prises de parole d'une autre nature et des dimensions spectacle qu'on évoquera peut-être tout à l'heure quand on présentera le programme. Deuxième temps de la matinée, eh bien on va parler de cette radio qui a 40 ans. Pour parler de cette radio qui a 40 ans, à côté de moi, il y a un jeune militant, Félix, qui a fait, il y a quelque temps, une maîtrise ou un master sur Radio Libertaire et qui devrait publier d'ici quelque temps, mais il vous en dira davantage tout à l'heure, un ouvrage sur ses 40 ans de Radio Libertaire. Voilà. Et à côté de moi aussi, mais de l'autre côté, Hélène, qui participe à Femmes Libres depuis extrêmement longtemps, donc une émission féministe sur Radio Libertaire, et qui a été l'une des pionnières de Radio Libertaire, qui a en plus réalisé une émission au mois de septembre, donc le jour du 40e anniversaire, avec un certain nombre d'invités, dont...
Donc Wally Russell, voilà. Mais je crois qu'on va démarrer par un petit spot audio qui est super intéressant.
Bien sûr, cette station à des moyens qui restent à perfectionner, mais quand même. Vous l'avez constaté, une nouvelle grille se met en place, une qualité essaie de s'instaurer, plus grande encore, et surtout, n'oublions pas que Radio Libertaire, qui a 4 ans aujourd'hui, est un bébé. Son avenir est devant lui, bien sûr, et son passé, c'est rien, c'est une goutte d'eau. Tout espoir nous est permis. Longue vie à la voix sans maître. Bon anniversaire à tous.
Voilà, et nous a rejoint une autre militante de Radio Libertaire qui est celle qui anime le samedi, quasiment à cette heure-là, enfin un petit peu plus tard, les Chroniques Rebelles. Donc, elle s'assoit doucement. Voilà, et donc nous sommes quatre pour parler de ces 40 ans avec des différentes appréciations. Je sais pas, tu commences, Hélène ?
Oui, alors je voulais dire que ce qu'on vient d'écouter, là, c'était lors d'un gala en 1985. Et c'est Gérard Caramaro qui présentait ce gala de soutien à Radio Libertaire. C'était donc les 4 ans de Radio Libertaire. Aujourd'hui, on est là pour les 40 ans, ce qui est quand même autre chose. Mais Radio Libertaire n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu la folie de Julien. Hein, je crois qu'on peut parler comme ça, de sa folie furieuse pour la radio, donc de Julien, et avec ses acolytes. Excusez-moi, avec ses acolytes qui étaient Floréal et Gérard qu'on vient d'écouter, puis bien vite Yves Perrault a rejoint. Et vous allez me dire, il n'y a pas de femmes. Si, si, il y avait des femmes. Jocelyne, que moi j'ai interviewée le 1er septembre 2021, a été une des premières dans le secrétariat de Radio Libertaire. Et il y avait Teresa pour la première émission du 1er septembre 1981. Il y avait Teresa qui était là. Et puis une autre fille importante dans les tout débuts, c'était Nelly Déré. Voilà. Donc, c'est sympathique d'écouter quand même cet engouement, ce dynamisme qu'il y avait pour les 4 ans de Radio Libertaire. Bon, aujourd'hui, on est pour les 40 ans et on est toujours aussi dynamique.
Voilà, tu souhaites dire un mot, Christiane ?
Mais moi, je suis arrivée vraiment après, je suis arrivée en 89, donc j'y suis allée en tant qu'intervenante à la radio avec mon compagnon, mais en 85 ou 86 je crois, mais ensuite c'était simplement 89, donc là j'attends que vous racontiez plein d'histoires, peut-être après je pourrais m'y greffer.
Okay. Avant l'histoire, Félix, pourquoi tu t'es intéressé à cette radio et pourquoi tu en as fait un travail universitaire, voire un travail éditorial?
Alors ça c'est une bonne question, parce que effectivement, avant d'arriver et de découvrir la radio libertaire, je n'avais aucune connaissance sur l'anarchisme, alors aucune. Et en fait, ça, je crois qu'il faut remercier qui de droit. Et donc, c'était mon directeur de mémoire à l'époque, s'appelle Pascal Horry, historien bien connu pour même pour le grand public, puisqu'il a animé des émissions sur France Culture et puis il passe régulièrement sur Arte. Donc, on le voit souvent. Il avait fait un livre sur l'anarchisme, mais l'anarchisme de droite, parce que bon, c'est un terme
ce qui n'existe pas d'ailleurs.
Plutôt problématique,
mais ça existe aux États-Unis.
Ou libertarien, bon, effectivement, voilà. Mais lui, il s'était intéressé à la partie française, donc il avait un intérêt, et puis il était venu plusieurs fois comme d'autres historiens à l'antenne de Radio Libertaire, et il m'avait dit, parce que moi je cherchais à faire un sujet autour de la radio à ce moment-là, je faisais partie d'une radio associative étudiante où j'avais envie de mieux comprendre ma propre pratique et puis de voir un peu comment d'autres faisaient, et donc j'avais cherché quelque chose qui croisait mouvement social et puis radiophonie, quoi. Et donc tout de suite lui il m'avait dit moi au début j'avais pensé à faire quelque chose autour d'émission de Daniel Mermet sur France Inter, et puis finalement, il m'a dit, mais allez voir Radio Libertaire. Et donc pour ça, il m'a dit, allez voir Alina. Alina, c'est sûr, il y aura des sources. Alina, ils ont tout. Vous pourrez trouver des cassettes, des archives, des sources, etc. Que dalle. Donc du coup, il a fallu trouver d'autres solutions. Et je me suis, à ce moment-là, rapproché de Publico, des anarchistes, de la Fédération anarchiste, qui du coup m'ont ouvert les sources disponibles et leurs archives, parce qu'ils ont constitué des archives importantes. Et là, du coup, je salue le travail des différents compagnons qui s'y sont collés depuis des années. Et puis moi, j'ai œuvré avec Michel pour pouvoir les mettre en ordre, les ranger, et puis surtout ensuite pouvoir les étudier et mieux comprendre un peu les intérêts, les stratégies mises en place par la Fédération anarchiste autour de cette radio. Et effectivement, comme le rappelait à l'instant la compagne, c'est que effectivement, ça n'a pas été simple, et ça a été un moment plutôt compliqué au départ. Enfin, c'était en gestation depuis plusieurs années, vraiment. Il y a eu plusieurs tentatives avant d'arriver à Radio Libertaire au sein de la Fédération anarchiste, à Toulon par exemple, avec Radio Trottoir, à Ris-Orangis en Ile-de-France avec Radio Alarme. Et au final, ça a débouché une bonne fois pour toutes ici, après plusieurs essais, à Paris, avec un compagnon acharné qui a vraiment été un monstre de boulot pour essayer de faire advenir cette radio, et qui va être un moyen pour la Fédération anarchiste d'exister dans un nouvel espace radiophonique qui sera la FM, qui à l'époque n'existait pas. Aujourd'hui, quand on allume la FM, en fait, la FM, c'est quelque chose qui a moins de 40 ans et qui est né avec... Et Radio Libertaire fait partie des gens qui ont fait naître ce nouveau média, qui était le média des jeunes à l'époque. C'était le média jeune. Tout le monde voulait être vers ce nouveau public. Tout le monde allait vers cette FM qui proposait une qualité sonore bien supérieure aux autres ondes, les grandes ondes, les ondes moyennes, etc. etc.
Oui, pour reprendre au tout début, tu as raison de parler des radios pirates qui étaient avant 81. Et justement, on a un petit son. On a utilisé évidemment des sons qu'on avait enregistrés lors de l'émission du 1er septembre 2021. Par des interviews de différents compagnons. Et là, c'est Wally Rossel.
Oui. Avant de passer, Wally, pourquoi Radio Pirate? Peut-être qu'on peut le rappeler. Il se trouve que c'est les Britanniques qui ont commencé, qui ont mis en place sur un cargo dans les eaux internationales un certain nombre de diffusions radiophoniques, plutôt du rock. C'était plus du rock de politique. Et donc, pirates, parce que justement, ils étaient, comme les pirates, en dehors des eaux nationales, et donc, ils pouvaient s'autoriser à ça. Et de fil en aiguille, si j'ose dire, les radios libres étaient des radios pirates, et les radios pirates, des radios libres.
Dès les années 78, sur Montmartre, il y a eu deux radios. Une radio qui était plus ou moins liée à des militants de la LCR, de l'époque, du côté des Abbesses, qui avait été d'ailleurs... investi par les flics. Et puis après, il y a eu une librairie associative qui s'est montée et qui a monté une radio qui s'appelait Fréquence Montmartre. Et donc, moi, j'avais proposé au groupe Louise Michel de participer à ça. Donc, en fait, au groupe Louise Michel, on a été un des rares groupes à participer à une radio pirate en tant que groupe. Même si tout le groupe n'y participait pas, c'était surtout moi, mais n'empêche. Et ça m'a, mais quand même, ça a permis de voir, de sentir quand même un certain nombre de choses. Hein.
D'accord, ça veut dire que tu animais une émission ?
Attends, des émissions, tu veux rire, c'était des radios pirates. On montait une antenne vite fait sur un toit ou sur un lieu, devant le Sacré-Cœur. C'était enregistré sur des cassettes. Il y avait quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure d'émission. Toi, c'était tout. Après, il y a les flics qui arrivaient. Toi, c'était ça. Hein. À part peut-être dans certains endroits où la municipalité laissait faire un petit peu et donc ils étaient un peu protégés par les locaux municipaux, le reste c'était vraiment du piratage. Et à Toulon, le copain qui a été d'ailleurs le seul qui a été condamné avant 1981, Radio Riposte, Radio Trottoir, et lui il montait au Montfaron. Il montait l'antenne, tout ça, et il avait sa cassette qui était enregistrée, et puis il passait l'émission, il y avait les flics qui arrivaient partout, il mettait ça dans un sac à dos, enfin bon, toi, c'était ça. Hein.
Voilà, donc le matériel a très largement évolué, et aujourd'hui, Radio Libertaire, vous le savez, est une radio tout à fait possible, pertinente et officielle, puisqu'on a 40 ans et qu'on va demander le renouvellement d'ailleurs de nos droits à diffuser pour 5 ans à la nouvelle autorité de l'audiovisuel.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la Radio Libertaire a été créée le 1er septembre 1981, pendant 4 heures maxi, hein, dans une cave du 18e arrondissement. Donc, Wally vient de le dire, dans le local du groupe Louise Michel, rue Planquette. Après, on a déménagé parce que... fallait dire qu'on était dans un blocos, il n'y avait pas de fenêtres, voilà, enfin c'était...
C'est pourri d'humidité,
oui. C'était, oui, très humide, et puis quand il y avait des réunions au-dessus, il y avait une trappe, mais voilà, enfin, au niveau sonore, c'était pas terrible, donc on a déménagé, on est resté dans le 18e, pour les raisons que, à l'époque, il fallait qu'on soit sur des collines, en hauteur, pour qu'on puisse être bien entendu. Et puis, on a encore redéménagé. Maintenant, nous sommes dans le 11e. Voilà. Donc, on a évolué techniquement au fur et à mesure qu'on a changé de locaux. Hein. Et aujourd'hui, on a comme du matériel un peu mieux. Wally nous racontait au début qu'il y avait des disques. On n'était pas sur des clés USB ou des CD-ROM. Hein. Enfin, voilà, on était sur des...
On était vinyles.
On était sur des vinyles. Après, il y a eu les cassettes, mais avant, c'était quand même les vinyles. Et il y avait une platine. Les copains ne savaient pas bien s'en servir. Et des fois, ils passaient le disque à l'envers. Voilà, moi, c'est un truc que j'ai retenu de ce que nous disait Wally. Je trouve ça génial. Et il y avait plein de problèmes comme ça. Aujourd'hui, on reste des bénévoles. Donc, on n'est pas hyper performant en technique. Mais on a quand même du matériel qui nous permet, à nous, bénévoles, de pouvoir faire... de la radio.
Militant plus que bénévole quand même, hein. Je préférerais ça comme ça. Voilà. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que Radio Libertaire se veut comme un outil d'éducation populaire. Plusieurs dimensions à cette dimension éducation populaire. Première chose, on dit des choses, on lit des livres, on le partage avec les auditeurs et on permet sans doute à un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices de s'éduquer grâce à ce qu'on peut faire. Ça éduque aussi nos propres militants, puisque nos militants, durant ces périodes d'émission, soit apprennent à prendre la parole, à s'organiser, à gérer un temps et éventuellement un débat autour de tel ou tel point. Et ça permet à d'autres qui ont d'autres fonctions de devenir des techniciens de la radio, donc des animateurs techniques, qui là aussi leur font gagner un certain nombre de compétences sociales qu'ils peuvent aller partager dans d'autres radios à d'autres moments. Donc Radio Libertaire, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir en tant que libertaire, c'est aussi et surtout peut-être un outil d'éducation populaire.
Et si tu me permets, Hugues, aussi, j'ai l'impression que au moment de la conception de Radio Libertaire, c'est l'idée aussi d'avoir un moyen d'exister d'une autre façon que par le journal, puisque quand on est une organisation anarchiste et qu'on refuse les élections, la façon dont, voilà, dont on parlait tout à l'heure des élections, là, la façon d'exister quand on est une organisation politique qui vise à transformer la société, il faut trouver d'autres solutions que de participer aux élections. Donc la création d'un journal a souvent été l'occasion pour les groupes anarchistes de se structurer, de s'organiser, de diffuser leurs idées vers l'extérieur. Et je crois que la radio, à un moment donné, a permis de combler un manque, à savoir dépasser le cercle des premiers sympathisants, puisque voilà, je crois qu'il y a un certain nombre de militants, quand moi je suis retombé dans les archives, hein, de camarades qui étaient là à se demander comment essayer de dépasser le simple cercle premier des militants, de ceux qui nous lisent déjà, avec un journal Le Monde Libertaire qui était extrêmement bien structuré, qui était en plein développement à l'époque, hein, en 1970, à la fin des années 70, hein, le journal et la Fédération anarchiste, hein, connaît vraiment un regain d'intérêt et de militants jeunes, dynamiques, avec plein d'envie, hein. Le journal passe de 4 à 8 pages, il passe en couleur, il passe de mensuel à hebdomadaire, donc on est vraiment dans une période assez florissante pour l'organisation. Et la radio va permettre de faire sortir un petit peu l'anarchisme et la fédération anarchiste de ce ghetto dans lequel elle peut se sentir et être, avec une diffusion qui va permettre d'arroser mais quasiment 8 millions de franciliens, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, le fait de pouvoir disposer d'une radio en FM à Paris, ça permet d'arroser une quantité astronomique de gens qui peuvent, simplement en ouvrant le robinet de leur poste de radio, accéder au contenu des anarchistes sans qu'il y ait à payer un droit d'entrée. Puisqu'il n'y a pas à payer le journal ou à aller dans la bonne librairie où on peut trouver le journal, où les camarades auraient déposé le journal, ou à être dans les bons cercles militants pour y accéder. Donc là, d'un coup, ça permet d'accéder à vraiment une quantité folle de gens, et ça va générer aussi d'autres problèmes pour l'organisation, puisque du coup, s'il n'y a pas de droit d'entrée pour payer le journal comme ça peut l'être pour financer ne serait-ce que l'impression, etc., il va falloir trouver d'autres moyens de le financer, et ça va être une des questions essentielles du début de la vie de Radio Libertaire, et notamment tout à l'heure quand on entendait Gérard Caramard au micro pour les 4 ans, c'était l'organisation de ces très grands galas, hein, avec des galas qui ont rassemblé jusqu'à 6 ou 7 000 personnes au Palais des Sports, au Zénith. Voilà, c'était vraiment une période faste pour l'organisation à l'époque.
Alors, ce que tu parlais d'éducation populaire, Hugues, je pense qu'il y avait aussi une autre dimension qui était celle de s'approprier la parole collective et d'en être maître ou maîtresse, hein. C'est-à-dire, on en avait marre aussi des radios commerciales, on en avait marre de la télé, et on avait besoin de pouvoir s'exprimer avec un média dont on maîtrisait le contenu, hein. Je crois il y a ça aussi. Mais l'éducation populaire, ça reste là vraiment une réalité. On a tous, nous en tant que animateurs de la radio, on a tous appris grâce à nos invités. C'est incroyable comment nos invités nous ont ouvert notre pensée, hein. Je crois que ça, c'est important. Mais peut-être que Christiane, toi, tu peux nous en dire quelque chose, parce que toi aussi, t'as des invités qui sont...
Au lieu de parler des invités, on pourra en parler bien sûr ensuite. Moi, j'aimerais parler, je vous écoutais et je pensais à une chose qui était très importante. Il y avait aussi le terrain. Donc, Radio Libertaire allait sur le terrain et donc voyait dans les manifestations, etc. Et notamment, je vais vous parler de deux événements qui, pour moi, ont été importants puisque j'y ai participé directement. C'est en 90, il y a eu une grève de 13 jours à Radio France. Et moi, je travaillais à ce moment-là à Radio France, et nous avons monté un coup, comme on a dit, à Radio France, avec les techniciens de Radio France. C'est que nous avons fait 3 émissions sur Radio Libertaire, et ces 3 émissions ont été diffusées en direct dans tout Radio France. Je ne vous dis pas la tête de la direction. La deuxième chose aussi que je trouve importante, c'est en 91, quand il y a eu la première guerre du Golfe. Et là, on s'est organisé absolument le 16 janvier. Et donc, à partir du 17 janvier, nous avons organisé une sorte de revue de presse différente, bien sûr, et libertaire, et en donnant d'autres informations. Et on venait à partir de 5 heures du matin, on venait donner... Moi, je récoltais des trucs chez les journalistes qui n'étaient pas diffusés. Et on venait à 5 heures du matin pour donner pendant 2 heures et répondre aux personnes, donner d'autres infos, des infos qui ne passaient pas. Et une chose aussi qui, à mon avis, était importante, c'est que les gens nous appelaient et nous remerciaient. Ils disaient « Ah, merci, enfin, on entend autre chose, quoi ».
Moi, je réagis à ce que tu dis, Christiane, parce qu'effectivement, j'ai travaillé. Il y a un article qui va sortir dans pas longtemps sur cette guerre du Golfe et Radio Libertaire et la guerre du Golfe. Hein, j'ai pu m'appuyer sur les sources de René Berthier, le camarade qui était vraiment parmi les plus actifs à cette période-là, hein, qui a vraiment écrit aussi un livre à ce sujet-là. Donc, c'était vraiment intéressant de voir à quel point Radio Libertaire a pu être un outil de diffusion des luttes, et notamment de la plateforme qui s'était mise en place avec plein d'autres organisations. Non anarchistes, hein. Il pouvait y avoir des trotskistes, il pouvait y avoir toute une série d'autres acteurs militants, tiers-mondistes aussi. Il y avait,
et des syndicats.
Et des syndicats.
Ces infos, on les faisait directement avec le... Moi, j'avais toutes les infos qui venaient du SNJ.
Donc le syndicat des journalistes, voilà. Donc ça, c'est vraiment important, et de voir que Radio Libertaire a pu être la courroie de transmission de toutes ces expressions-là qui n'ont nulle part ailleurs où exister, quoi. C'est vrai que alors il y a d'autres radios associatives en région parisienne qui le font, mais c'est vrai que cette expression des luttes, Radio Libertaire va s'en faire l'écho pendant des années et jusqu'à maintenant. Et je crois que voilà, l'éducation populaire, certes, mais aussi une radio de lutte et une radio où on n'entend pas ce qui peut être caché ailleurs, hein, et notamment en 91. Hein. Je crois que la propagande mise en place pour la guerre où la France intervenait directement, hein, l'opération Daguet lancée par Mitterrand, auquel a participé la France. Donc là, on était vraiment en guerre. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en guerre, mais on ne l'est pas. Hein. Il n'y a pas de troupes françaises mobilisées en Ukraine. Mais il n'empêche que la propagande de guerre est quand même là aussi extrêmement forte actuellement. Et puis, il y a les mêmes arguments qui reviennent, hein, à chaque fois. Par exemple, anti-munichois, à chaque fois, pas avoir des positions munichoises, ça revient. Et donc, toujours cette comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, le fait d'être pacifiste ou de donner une position qui ne soit pas ni il y a des gentils et des méchants, et ben d'un coup ça colle plus. Et Radio Libertaire, je crois, fait ce travail-là depuis toujours.
Alors, donc, le lieu, ça a été Montmartre et ça a été le local du groupe Louise Michel.
Oui, heureusement.
Pourquoi
Pareil. Donc, on est dans l'été, on commence à discuter de choses et d'autres. Et puis, Julien, il dit, écoute, on va aller voir ton grand-père parce que, de toute façon, on pourrait mettre
Alors,
à Paris.
Alors, ton grand-père, c'est Maurice Joyeux.
Voilà. Donc on va aller voir Maurice, parce qu'à Paris, il n'y a pas trois solutions. C'est Montmartre, Belleville ou Ménilmontant, pour émettre.
Sur les collines.
Sur les collines, pour avoir une portée un peu importante. Donc j'ai dit, comment ça chez Joyeux? Il me dit, oui, on va faire dans son bureau, on va faire le studio. J'ai dit, non, mais ça va pas, non? Le studio dans le truc de Joyeux, mais... Non, mais... Alors il m'a dit, mais on l'a appelé, d'accord, mais lui, mais je lui dis, mais il sait pas ce que c'est, lui, la radio, il voit pas le bordel que ça va être dans son bureau. Et je lui dis, non, il y a la cave du groupe, donc rue Robert Ploquette, face sud, du côté des Abbesses, on va monter sur le toit, on voit déjà très très loin, donc on a un champ d'action quand même assez important. La seule contribution donc de Maurice Joyeux, c'est que j'ai été le voir, je lui ai pris sa table de camping, pour faire la table de studio. On a fait des trous dans la table de camping de Joyeux pour passer les trucs. Alors oui, tout de suite l'idée, c'était de dire pas de hiérarchie entre les intervieweurs, les interviewés, les gens qui répondent au téléphone et puis celui qui s'occupera de la technique avec la table de mixage. Alors, l'autre épisode caractéristique de Radio Libertaire à ses débuts, ça a été l'épisode du générique. À l'angle de la rue Le Pic et de la rue des Abbesses, là, sur le marché, ça devait être un samedi, je vois un mec qui fait de l'orgue de barbarie. Donc je passe devant, je ne sais pas ce qu'il jouait. Je continue, sur 50 mètres, j'ai une étincelle qui s'allume. Je retourne, je vais le voir, je lui dis, écoutez, bonjour, nanana, est-ce que vous avez le temps des cerises? Il me dit, ouais, je l'ai. Je lui dis, tu peux m'en faire deux secondes, là? Il m'en fait deux secondes, impeccable. Je lui dis, bouge pas. Je cours au local, j'appelle Julien, je lui dis, t'as ton appareil à cassette, là? Il me dit, oui, je lui dis, viens vite, 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 vite. Il enregistre sur une cassette,
Voilà. D'accord.
La cassette, ça, elle a duré 20 ans.
Ouais.
Voilà. Et le mec, on ne l'a jamais retrouvé.
Ah,
on a passé des appels à la radio, tout. On n'a jamais retrouvé le gars pour lui dire merci ou quoi, ou l'inviter ou quoi que ce soit.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, aujourd'hui en direct de la salle Olam de Gouges, métro Voltaire, Léon Blum, ou encore Père Lachaise avec effectivement la tombe de Makhno, enfin les cendres de Makhno qui sont dans le cimetière. Makhno, grand révolutionnaire ukrainien, et il est important de parler de l'Ukraine aujourd'hui, sachant que l'Ukraine a eu un mouvement anarchiste extrêmement puissant dans les années, enfin jusque les années 21-22. Voilà. On a dit que Radio Libertaire, c'était les mouvements sociaux qu'elle tentait de relayer. Et d'ailleurs, on voit bien que quand il y a des mouvements sociaux, la radio est de plus en plus sollicitée, de plus en plus écoutée. Donc on est aussi le relais d'information, sachant que comme relais d'information, et pour donner un exemple, c'est l'exemple des chroniques syndicales. Les chroniques syndicales, quand elles se sont créées, ont repris le mot d'ordre de la Première Internationale. Le mot d'ordre de la Première Internationale, c'est l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Eh bien, les chroniques syndicales, c'est la voix des travailleurs sera la voix des travailleurs. C'est pas nous qui faisons les journalistes, on invite des gens qui s'expriment très directement sur leurs conflits, leurs revendications. Voilà. Et on a aussi, parce qu'on a des logiques, mis en place des modes de fonctionnement qui sont compatibles avec l'idée anarchiste.
Oui, là, on vient d'écouter Wally qui nous dit bien que il n'y a pas de hiérarchie dans les équipes. Les équipes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, il y a des animateurs qui reçoivent des invités ou qui ont un projet d'émission musicale, théâtrale, enfin, peu importe, mais en tout cas, qui ont un projet. Mais il y a aussi des techniciens et des techniciennes qui sont aux manettes. Et là, en l'occurrence, en ce moment, eh ben, aux manettes, c'est Monique qui est là, et sans technicien aux techniciennes, ça, la radio ne fonctionnerait pas. Donc ça, c'est important qu'il n'y ait pas cette hiérarchie. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de techniciens et techniciennes ou d'animateurs, animatrices qui font l'un et l'autre. Moi, par exemple, j'ai appris à faire la technique et quand il le faut, eh ben, je passe de l'autre côté. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas non plus super performante, mais ce n'est pas grave en soi. Ça veut dire qu'on ne veut pas spécialiser les gens et surtout, on ne veut pas les hiérarchiser. Et je crois que ça, c'est important. Alors, ça, c'est l'aspect, on va dire, fonctionnement, avec ensuite des assemblées générales qui rassemblent donc toutes les équipes. Mais il y a un autre aspect qui est important, c'est pas parce qu'on parle qu'on ne fait que parler. On a toujours un choix musical très important, qui est toujours en lien avec ce que nous racontons. Et de la même façon, Nos copains et copines qui, eux, font des émissions plus artistiques ont un choix de paroles et de propos qui sont en lien aussi avec l'idéal anarchiste. Je crois que c'est ce mélange-là qui est intéressant. Et peut-être que, Christiane, tu peux nous en dire quelque chose, parce que toi, t'as dans ton émission, dans Chronique Rebelle, tu as un magnifique générique.
Oui, alors ça, le générique, j'ai mis un petit moment à le trouver, mais je l'ai pas. Oh, finalement, c'était assez vite. C'est une femme algérienne berbère qui s'appelle Ouria Ishi. Et il se trouve qu'en 92, au moment de la création des Chroniques Rebelles, j'étais à New York et j'ai enregistré une manifestation monstre, ou qui disait « Enough is enough, enough is enough ». Et donc j'ai enregistré, je me baladais toujours avec mon micro, j'ai enregistré, et j'ai fait un montage avec ça, et puis C'est une bande originale d'un film, Thelma et Louise, que j'ai beaucoup aimé, qui veut dire pas mal de choses pour moi. Et donc, j'ai fait un espèce de... j'ai fait un mixage, tout simplement. Et depuis, tout le monde l'aime bien, on me demande même qu'est-ce que c'est, etc. Ce que je voulais quand même dire, c'est par rapport aux techniciens, aux techniciennes. Dès le début, quand même, il y a eu, en tout cas, depuis le moment où j'ai connu la radio, il y avait un certain nombre de techniciens et techniciennes qui étaient... on va dire pointu, même certaines et certains étaient vraiment un peu des grandes oreilles. Donc ça a apporté quelque chose et puis en même temps ça a permis de faire des échanges avec les autres personnes qui étaient, qui n'avaient pas cette connaissance mais qui étaient tout à fait curieux et curieuses. Ça c'est une chose. Je reviens à la première guerre du Golfe de 91. Il s'est trouvé que j'ai eu la connaissance d'une liste, tout à fait par hasard, d'une liste de chansons qui avaient été interdite sur les chaînes nationales. Et en même temps, j'ai eu des nouvelles également de chansons qui étaient interdites absolument aux États-Unis. J'avais donc deux listes. Et pendant ce temps-là, de tout ce qui s'est passé, le conflit, etc., les trois mois, on n'a passé que ces chansons-là. Tout ce qui était interdit, on l'a passé. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que Radio Libertaire a toujours eu du courage. Et puis une liberté d'esprit, une ouverture d'esprit qui a permis quand même des échanges qui sont au-delà même de la Fédération anarchiste. Il faut rendre hommage. Franchement, ça a été quelque chose d'assez fantastique pour moi, mais pour d'autres. Je pense à Nelly qui disait, mais moi, on m'a donné une émission, Nelly Trumel, et voilà, j'ai commencé Femme Libre en 1986. Et elle a fait un boulot formidable. C'est d'ailleurs un peu grâce à elle que je suis venue à la radio, parce que j'ai écouté tout à fait par hasard, puisque les émissions voyageaient avec des cassettes, puisqu'à ce moment-là, c'était ça. Donc, elles étaient rediffusées dans des moments où il n'y avait pas d'émission. Et il y avait une émission qui est passée de Nelly Trumel, donc Femme Libre, au début, et qui parlait de Thérouanne de Méricourt, et qui interviewait Roudinesco.
Elisabeth, voilà. Roudinesco.
Merci, Elisabeth. Et donc, Hélène, pardon. Et donc, Elisabeth Roudinesco, et je me suis dit, mais c'est vraiment intéressant cette radio, mais il parle de choses vraiment différentes. Et donc, j'y suis allée. Moi, je travaillais à Radio France, j'avais un autre son de cloche, même s'il y avait des choses intéressantes. Puis, je suis arrivée et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de matériel. Donc, j'ai commencé. On a oublié un truc, un support. Hélène, tu as oublié de dire qu'il y avait aussi de la 625. Vous savez, ces grandes galettes comme de la pellicule, mais très, très fines. Il y avait aussi une possibilité d'écouter ça à partir du studio de Radio Libertaire. Et donc, il y a eu des échanges comme ça avec tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui a fait le dynamisme de la radio et qui fait aussi qu'on est toujours là.
Félix, vous voulez dire un mot ?
Oui, c'était à propos de cet aspect musical de Radio Libertaire et cette ouverture d'esprit sur Radio Libertaire qui a été très importante. Parce que Radio Libertaire, tu l'as dit tout à l'heure, Hugues, se crée dans une vague des radios pirates, avec les Anglais qui vont avoir ce bateau à l'extérieur des eaux territoriales anglaises pour diffuser du rock, qui n'avait pas le droit de citer à la BBC anglaise. Eh bien, la musique va jouer un rôle important aussi dans le développement de Radio Libertaire, avec notamment la chanson française qui va vraiment être le pilier au départ de la programmation musicale de Radio Libertaire, avec des gens comme Joël Jacquie-Julien, Caramaro, Floréal Melgar, etc., qui ne jurent que par la chanson française et qui étaient des fanatiques de chansons françaises. Julien avait fait le Petit Conservatoire de Mireille, il était copain avec Lavillier, et c'était quelqu'un qui était vraiment passionné, avec Hervé Trinquier, de chansons françaises. Et donc Radio Libertaire va se faire remarquer au départ par la diffusion d'artistes francophones, de chansons non desservelantes, pour sa programmation musicale vraiment de qualité. Et puis dans les années 80, en avançant les années 80, il va y avoir cette déferlante de musique diverse, du rock, du punk, mais aussi un peu de new wave, un peu de reggae aussi, et qui vont toutes trouver aussi droit de cité sur Radio Libertaire avec toute une série d'émissions qui vont se créer, et puis des gens qui étaient militants syndicaux qui vont eux aussi, par exemple, créer leur propre émission de jazz, de musique blues par exemple. Thierry Poré, un militant syndical avec toi Hugues, qui faisait les chroniques syndicales musicale. C'est quelqu'un qui a ensuite créé une émission qui était au départ juste une chronique dans l'émission de jazz, qui va devenir une émission de blues à part entière sur Radio Libertaire et faire honneur à cette musique-là qui n'existait pas ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et de voir que Radio Libertaire a donné une place à tout le monde là où toutes les autres programmations musicales de l'époque ont toutes commencé à se spécialiser. Une radio qui naît en même temps que Radio Libertaire, c'est Énergie. Et Énergie, ils vont se spécialiser très progressivement, mais sûrement au bout de 2-3 ans, dans une programmation disco, puis ensuite variété plus générale. Mais en tout cas, ils ont vraiment ciblé un style de musique, là où Radio Libertaire a fait le choix d'un éclectisme qui ressemble un peu parfois au costume d'un arlequin, hein, puisqu'on a des grilles avec un peu de style musicaux différents. Donc voilà, donc c'était important de le dire, qu'il y a eu cette ouverture-là et qu'elle a été maintenue pendant ces 40 ans.
Très rapidement, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et l'ouverture de Radio Libertaire, l'ouverture d'esprit de Radio Libertaire a tout de suite marqué l'ensemble du mouvement libertaire et même ailleurs. L'IFOP, à l'époque, ou un institut de sondage, fait une enquête
d'audience.
Voilà. Et qui c'est qui arrive en cinquième position ? Radio Libertaire. Il y a eu une course à la grosseur des émetteurs. Tous les 6 mois, tous les ans, on changeait d'émetteur pour en avoir un plus gros, pour avoir une diffusion à peu près pareille, hein, identique. Hein. Donc, et puis le gouvernement a dit, on va essayer de...
Il faut réguler sur la bande FM.
On va privilégier les radios associatives, pas de publicité sur la bande FM. Voilà. Et puis le gouvernement a commencé à dire, à donner des grands axes. Il fallait faire minimum plus de 12 heures de direct par jour, et d'émissions originales par jour. Voilà. Parce qu'ils pensaient que les 3/4 des radios étaient incapables de les faire. Et donc, je m'en souviens parfaitement, alerte générale à Radio Libertaire, convocation d'une assemblée générale, et on décide en une soirée de passer de 4 heures de direct par jour à 18 heures de direct par jour, de 6 heures du matin à minuit et plus. Donc il y avait les infos le matin de 6 à 9, après il y avait des tranches d'émissions toutes les 2 heures, toutes les 2-3 heures, avec des émissions qui revenaient de manière hebdomadaire, voire quinzomadaire pour certaines. Et tous les gens qui étaient venus, ça devait être décembre 81. Donc tous les gens qu'on avait invités, qui comme chronique syndicale, n'étaient pas encore chronique syndicale, mais venaient régulièrement parler des luttes sociales, tout ça, Radio Espéranto, machin, tous ces gens-là, ils venaient en tant qu'invités avec des rubriques régulières. On a dit, maintenant, allez hop, non seulement vous avez une rubrique régulière, mais vous vous chargez de 2 heures, de 3 heures ou d'une heure.
Et on a commencé à faire une vraie grille.
Une vraie grille.
Donc Radio Libertaire, 40 ans après, a toujours une grille. Elle est d'ailleurs réactualisée et elle est disponible avec le programme des 2 journées que nous sommes en train d'animer et auquel, pour l'instant, vous participez. Et on finit de donner 2-3 informations sur Radio Libertaire. Il est bien évident que si vous souhaitez intervenir, un micro baladeur sera à votre disposition.
Moi, je voudrais donner un exemple, puisque... Christiane en a donné un l'exemple de Nelly Trumel, comment ça a démarré. C'était le cinquantenaire de la Révolution espagnole en 1986. Radio Libertaire avait décidé pendant plusieurs semaines de célébrer ce cinquantenaire-là. Nelly venait d'acquérir, grâce à Laurent qui était à Publico, le libraire de Publico, venait d'acquérir un livre qui s'appelle « Femmes libres » de Marie Nash. Et c'était l'histoire de Maurice Libresse. Elle le lit parce qu'elle n'avait jamais fait de radio de sa vie. Elle le lit à l'antenne chaque semaine, un petit bout. Et puis, il y a une auditrice qui l'appelle et qui lui dit « Tu sais, tu pourrais aussi inviter des gens. » Parce qu'une fois qu'elle avait fini de lire le livre, elle passait de la musique. « Tu pourrais aussi faire venir des gens. » Il y a un journal. Alors, à l'époque, on n'avait pas Internet. Il y a un journal qui s'appelle Paris Féministe. Eh bien, tu t'abonnes à ce journal et tu auras plein d'infos. Et à partir de là... Nelly a non seulement utilisé les informations qui existaient dans ce journal grâce à cette auditrice, mais a pu aussi inviter eh bien, un certain nombre de féministes qui apparaissaient soit dans les mouvements, soit dans ce journal. Voilà, c'est comme ça aussi, c'est cette relation auditeur-auditrice avec les émissions qui ont donné cette possibilité. Moi, je suis venue parce que j'étais très investie dans le collectif des associations pour le droit à l'avortement, à la contraception. On avait les commandos anti-IVG qui venaient dans tous les hôpitaux. Moi, je travaillais dans la santé et on avait fait un collectif féministe et syndical et politique pour lutter contre ces fachos fous de Dieu.
Voilà, donc Christiane, peut-être un mot sur l'avenir.
L'avenir de la radio?
Oui.
Mais moi, je pense que...
On va faire les 80 ans bientôt.
Oui, voilà, absolument. Et surtout, il va y avoir, je pense qu'il y a de nouvelles émissions qui ont commencé dernièrement. Donc, il y a évidemment des ouvertures qui se font tout le temps. Moi, je suis absolument ravie. Je pense que Radio Libertaire est un outil absolument phénoménal pour justement avoir des contacts avec les personnes et surtout diffuser d'autres idées que celles qui nous, allez, je vais le dire, hein, qui nous gonflent littéralement et qui nous lobotomisent. Donc ça, c'est important. L'avenir, je pense que ça s'ouvre.
Bah, assez rapidement, on a compris qu'on n'était pas dans les papiers du ministère de l'Information et de la Communication en charge de la bande FM. Ils ne voulaient pas de nous. Simplement, tous les réseaux, toutes les émissions qu'on avait ont fait que ça marchait pas. Même la Ligue des droits de l'homme, je me souviens, avec Yves Perrault, on y avait été, un comité central de la Ligue des droits de l'homme, il y avait Badinter, il était plus ministre, mais il était là. Et la Ligue des droits de l'homme qui interpelle les ministres qui étaient à la Ligue des droits de l'homme en disant mais ça va pas, comment ça se fait, voilà, Radio Libertaire, c'est la seule radio qui nous accueille toutes les semaines, enfin bon, donc on a été interdit, voilà.
La lutte pour Radio Libertaire n'est pas terminée. Nous devons nous retrouver tant que Radio Libertaire ne pourra pas s'exprimer sur la bande FM. Merci à tous d'être venus et merci à tous les artistes qui ont soutenu pendant ces deux journées Radio Libertaire.
J'étais... Ça, c'est les années 82-83.
Ouais.
Hein, voilà. On est dans ces j'étais années-là.
J'étais inculpé, donc. Mm-hmm. Voilà.
On a fait une grosse manif en 83.
Alors, après la saisie,
ouais.
Donc on a été au courant par des flics qui nous ont appelés en disant « Cette nuit, vous allez être saisis ». On avait mis au point un système d'alerte. Donc, les copains, les copines, il y avait Teresa qui était dans le studio, je me souviens. On leur avait donné des consignes de ne pas résister, enfin, tout ça, hein. Mm-hmm. Et par contre, à l'extérieur, on n'était pas tombé d'accord. Il y en avait une partie qui disait « Il faut qu'on protège la rue Barsac. On va monter, pas des barricades, mais on va mettre des bagnoles en travers. » Enfin bon, toi. Et puis, puis une autre partie qui disait « Non, de toute façon, ça ne sert à rien. On va faire de la résistance passive. » Enfin bon, des trucs comme ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont complètement défoncé la porte. Ils sont pas arrivés à sortir l'émetteur, donc ils ont cassé l'émetteur.
Ça, voilà. Je me souviens.
Ils ont coupé le câble qui allait jusqu'à l'antenne.
On a des photos, d'ailleurs, qui montrent les dégâts très importants.
Et ils ont piqué du matos. Ils ont arrêté les copines. Après, donc, on a appelé à la manifestation.
C'était une énorme manifestation.
Ah oui, entre République et Barbès. Et arrivé à Barbès, moi, je faisais l'aller-retour entre la radio et la manif. Et à la fin de la manif, on avait rétabli l'émetteur. On est réémis. Et donc là, je pense que ça a été la bascule, si tu veux. Ça a été la bascule parce qu'ils se sont dit, bon, une fois... Il y avait eu 7 ou 8 radios pirates, entre guillemets, qui avaient été interdites. Et on a été la seule à réémettre tout de suite. Donc en fait, ils ont trouvé un autre biais. Ils nous ont proposé donc de nous marier avec d'autres radios. Et Énergie, il devait aller sur notre fréquence, 89.4. Donc en fait, on avait été voir, on avait été discuter avec lui. Et on était tous tombés d'accord, fréquence gay, Énergie et nous, pour dire on ne bougera pas. Il n'y en a pas un qui prendra la place de l'autre. On a reçu une offre du CSA de maintenant pour nous marier avec Fréquence Montmartre, Radio Montmartre, et qui était la radio des petits vieux de l'époque, hein. Accordéon, machin, tout ce qui était après 1960, c'était Oni.
Et puis après ça s'est un peu tassé et ils nous ont proposé Radio Pays, voilà. Donc avec Radio Pays, on a dit OK, on va faire un rapprochement. Et puis bon, voilà, tout le reste est marqué dans le livre qu'avait écrit Yves Perrault. Voilà.
Voilà donc Radio Libertaire 89.4. Maintenant, alors on a évoqué 40 années de Radio Libertaire. Il est bien évident qu'en une heure, on ne peut pas faire le tour de 40 ans d'aventure. Mais on souhaiterait que ceux qui sont ici, qui sont soit animateurs, soit auditeurs, auditrices, interviennent comme on le fait régulièrement. Donc il y a toujours le micro HF qui se balade grâce à Frédéric. Et donc si quelqu'un souhaite intervenir sur ces 40 ans avec... les choses qu'il souhaite dire positivement sur cette radio, ou au contraire, des critiques, s'il y a des critiques, on les entendra et on essaiera d'en faire quelque chose.
Ou des suggestions.
Ou des suggestions, pourquoi pas. Qui souhaite suggérer ? Personne ? Donc tout est parfait. Vous pourriez peut-être nous dire quel type d'émission vous écoutez ? Non ? Même pas ? Bon, ben on reprend les micros, alors. On est obligé d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas, vous souhaitez... Félix, ton bouquin va s'appeler comment et c'est pour quand, alors ?
Ah, ben, il y a un souci, là. Hein, c'est que j'ai été occupé, parce que, voilà, à côté de ça, j'ai des responsabilités syndicales dans l'éducation nationale, et du coup, je suis assez ennuyé par ma chef d'établissement, qui, en ce moment, me fait beaucoup de mal. Donc, du coup, ben, je suis plutôt là-dessus que de rédiger... Donc, je rédige des éléments de réponse au rapport disciplinaire qu'elle tente de porter contre moi. Donc, du coup, je suis assez occupé là-dessus. Mais, voilà, j'essaye de faire sortir ce bouquin rapidement. J'aurais aimé qu'il soit sorti là pour aujourd'hui, pour que vous puissiez repartir avec, éventuellement, si vous étiez intéressé. Mais, du coup, ce sera pour plus tard. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire quelque chose ensemble, peut-être à Publico ou quelque chose comme ça. Ça va être difficile aussi parce que le monde de l'édition actuellement est quand même frappé par la pénurie de papier, donc j'imagine bien que vous êtes déjà au courant et que voilà, donc il risque d'y avoir une restriction un petit peu de l'offre, et j'espère que le bouquin va pas se faire couper par la pénurie de papier. Donc je voulais quand même vous lire peut-être un petit texte quand même pour vous donner une petite idée des intentions de départ de Joël, Jacques et Julien, si vous me permettez. C'était un texte c'était le deuxième tour des élections législatives de 81. Et Julien, il est motivé depuis déjà plusieurs années à vouloir faire une radio, mais la Fédération anarchiste, ça bouge pas trop. Les gens disent, ouais, bon, d'accord, mais il faut mieux que ce soit une initiative de groupe. Pourquoi en faire une œuvre fédérale, hein? C'est vraiment une des questions de départ. C'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce que ça deviendrait une œuvre fédérale de la Fédération anarchiste plutôt qu'une initiative de groupe? Laissons les groupes faire, non, ne portons pas ça au niveau fédéral. Bon, Julien, il réfléchit et voilà, il va chercher des arguments et puis il va chercher des exemples. Il va chercher des exemples. Et donc, il va chercher des exemples auprès d'une radio célébrissime à l'époque dans les luttes sociales. C'est Lorraine Cœur d'Acier, qui va être la radio de la lutte de la sidérurgie en Lorraine. Et il y a eu un documentaire qui a été tourné sur cette initiative de la CGT et du Parti communiste à Longwy. Et il va voir ce documentaire en 81. Ce documentaire, il est toujours accessible, je crois, en ligne. On peut le retrouver dans les médiathèques aussi. Hein, donc, voilà. Et donc, voilà ce qu'il dit quand il va voir ce documentaire. On est dans un article du Monde Libertaire. Je ne vous cache pas que pour ce dimanche, jour de la présentation du film, j'avais déjà prévu mon emploi du temps. Je me préparais à une longue, très longue grasse matinée et une longue, très longue partie de pêche. C'était le deuxième tour des élections législatives. De plus, l'invitation était pour 11h, le matin. Enfin, je craignais, compte tenu du sujet, émetteur CGT, et des attaques politiques des réalisateurs, l'un est au PC, l'autre à extrême gauche, un dithyrambe fumeux et racoleur. Mais ma passion pour les radios pirates l'a emporté sur ma paresse. Oh, les premières minutes, je ne fus pas déçu. J'avais vu juste et je me calais confortablement, lorgnant avec envie le superbe émetteur, là, devant mes yeux. Essayant d'oublier la litanie habituelle avec ses mots fétiches, démocratiques, travailleurs, etc., en un mot, l'écoute du tract indigeste, habituel, jamais renouvelé du militant de gauche. Ça ronronnait doucement. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Un cégétiste se plaint de ce que Krivine et même la honte Cohn-Bendit viennent causer dans le poste des travailleurs. Je me marre, complètement bouché, ce type-là avec sa grande gueule. Et puis, je dresse l'oreille. Le type dit « Oui, mais ça c'était au début. J'avais pas l'habitude, vous comprenez? Entendre les conneries de Krivine grâce à mon propre pognon, c'était dur. Mais je sais maintenant que c'est justement ça, la liberté d'expression, et je suis d'accord pour que la radio continue comme ça. Mais c'est qu'il commence à devenir bougrement sympathique, celui-là, avec sa grande gueule. Et puis plouf, Explosion. Je me redresse du fauteuil. Quoi ? Le présentateur vient de poser au responsable du PC local une question que même El Kabash, clown sinistre, n'oserait pas poser à Marché, clown triste. Mais si, c'est vrai, c'est pas vrai. Il vient de lui demander des explications sur la une de l'Humanité de ce jour-là, au sujet de l'attaque franchement crapulaire du journal de La Vérité contre le Canard Enchaîné, suite au suicide de Boulin. Aïe, 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 l'un évasouille sur la forme, pas sur le fond, comme d'habitude. Aïe, 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 l'autre insiste, encore la question. Et ça y est, miracle, le présentateur devient journaliste et la radio pirate devient radio libre. Et la pellicule du documentaire banal se transforme en un vrai grand film sur ce qu'est la communication. Et tout s'accélère. Ils ont pris la parole pour exposer leurs problèmes, pris au jeu, la donnent, la rendent, ouvrent les fenêtres. C'est ça le film, sous prétexte d'un reportage, une fresque belle et forte sur la soif de s'informer et de se comprendre. Imaginez toute une ville et presque toute une région à l'écoute. Imaginez que chacun vienne causer de ses ennuis, de ses envies, et au travers apprenne à écouter les autres. L'un des habitants de Longwy le dit tel quel d'ailleurs. Et maintenant, imaginez cela dans chaque ville. Ce serait une évolution plus profonde que de changer le système droite-gauche. Et de cette formidable expérience qu'advint-il, les grands sorciers de Paris, qui savent toujours ce qui est bien ou mauvais pour l'ouvrier, on est les chefs, c'est démocratique, rompez, pas fâchés de mettre fin à une expérience qui contrôle mal, font le nécessaire. On coupe les vivres et on licencie les deux journalistes.
Oui, c'est ça. Il faut rappeler que, alors d'une part, Radio Libertaire, il n'y a pas de permanent, hein, donc on ne fonctionne que sur des équipes militantes, et que Radio Lorraine Cœur d'Acier, qui était une radio de combat, a été dissoute par l'appareil communiste et cégétiste de l'époque. Voilà. Nous, on n'a pas d'appareil, donc on ne risque pas la dissolution. Hélène.
Oui, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle là, qui a des questions ou des propos à partager. Voilà, ça se réveille.
C'est ce qui vient d'être dit qui me fait rappeler une anecdote. Bon, j'ai eu la chance de pouvoir parler dans Radio Libertaire en 83 ou 84, enfin sur Radio Libertaire. Et je me rappelle, bon, j'étais un jeune militant. Et alors, pour le coup, à cause de ces fameuses grilles, on était obligé l'été de trouver des gens qui puissent venir parler, alors que tous les autres étaient partis en vacances. Donc, l'AFA avait fait un grand appel pour faire appeler plein de gens, des jeunes. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais jeune, il se trouve. Et donc, j'étais venu avec mes disques. Et puis, j'avais passé mes disques. Et donc, j'avais passé un disque que j'adorais. Moi, c'était Ange. Je ne sais pas si certains se rappellent de ce groupe. Toujours est-il qu'il y avait, après, il y a eu plein de lumières rouges qui avaient sonné, parce qu'il y avait plein de gens qui détestaient cette musique. Et j'avais été reçu plein d'appels, comme quoi il ne fallait pas passer cette musique. Et donc, les animateurs qui étaient là, qui étaient plus habitués, vous avez dit, t'inquiète pas, de toute façon, tout le monde... Radio Libertaire, les gens ne sont jamais contents et ils sont toujours contents. Ça sonnait tout le temps. J'avais été très étonné par l'interaction qu'il y avait à cette époque-là. Bon, alors tout de suite après, moi, dans ce cas-là, un petit peu encouragé, je fais ma blague que j'adorais. J'avais une blague qui me plaisait bien. C'était ni Dieu ni maître. Et je dis ni Dieu ni maître, sauf Maître Canter. Bon. Et alors là, en face de moi, il y avait un type qui s'appelait Yves Perrault qui me regarde avec des yeux et il m'engueule après. On n'avait pas le droit de faire une blague aussi grosse que ça, c'était pas bien. Et donc, c'était tellement pas bien que, on a réfléchi avec plein de potes, on était du groupe de Melun, et on a proposé une émission à Radio Libertaire qui s'est appelée, en fait, De la Pente du Carmel, de la Vie Magnifique, qui passait le soir, le lundi soir, où on se moquait de plein de gens, et on se moquait beaucoup de nous-mêmes, les anarchistes. On s'autorisait à beaucoup se moquer. Après, il y a eu plusieurs périodes, bon, je suis pas parti, mais enfin, peu importe. Et en fait, on avait le droit, évidemment, voilà, c'est ce que je voulais dire pour finir ma conclusion, c'est qu'on avait le droit bien de se foutre de la gueule de nous-mêmes parce qu'il n'y avait personne, de toute façon, qui nous interdisait quoi que ce soit par rapport, sauf si on restait dans les règles enfin, classiques. Et donc, voilà, donc il y avait une vraie liberté, enfin, je pense, j'écoute moins bien Radio Libertaire parce que j'habite beaucoup, beaucoup plus loin, sauf sur Internet, mais pour le coup, il y avait une grande liberté et je ne vois pas qu'on puisse avoir pu fermer une radio comme ça. Voilà.
Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus, excusez-moi. Sachant que c'est pas il y avait une très grande liberté,
oui,
c'est qu'il y a une très grande liberté.
Il y a.
Voilà. Même si tu as pris quelques années, la liberté, elle, est toujours présente et il y a toujours cette très grande liberté sur Radio Libertaire. Sachant qu'on peut aussi préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que les trois quarts des animateurs et animatrices de Radio Libertaire ne sont pas encartés à la Fédération anarchiste. Hein, il suffit simplement d'avoir des affinités avec le mouvement libertaire et un projet radiophonique pour être entendu, accueilli et éventuellement, on donne des temps d'antenne à tous ceux, à toutes celles qui le souhaitent.
Encarté, quel vilain mot.
Et Hugues, est-ce que je peux te laisser une... Allez, ça marche. Je reviendrai.
« n'y a qu'une seule cartouche d'encre noire dans mon stylo désarmé. Juste une plume trempée dans l'espoir d'un monde de fraternité. Aux fiers messagers de la haine, j'envoie cet avion de papier chargé des seuls mots de ma peine sur leur tour d'inhumanité. Moi qui ne crois en aucun dieu, je prie celui qu'on voudra pour qu'au mur des villes, des banlieues se taguent un jour des mots de joie. Mes larmes ne m'écoutent plus, larmes de rage et de tristesse. C'est un peu de moi que l'on tue, mes rêves d'ado que j'y laisse. De nos rires de résistance, on gommera nos masques tristes. Nos guitares sans importance seront nos fusils d'artistes. Je vais encore gueuler l'amour, plus haut, plus fort sur tous les toits, pour qu'il soit contagieux autour et qu'il gagne enfin pour une fois. Je suis enfant sans armure, l'eau, le feu, la terre et le vent. J'ai mal à celui qu'on torture, je suis humain simplement. Pour tous ces frangins qu'on enterre, j'ai dessiné cette chanson-là. Je n'ai que ça comme prière,